J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le Frost and Quiz. Ciao, on se retrouve au carnaval.
L'heure vous est donnée par le garage Balcon du Jura, votre agence Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'émission La Vita est Bella. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, bienvenue. Nous remercions nos partenaires avant de commencer cette émission du jeudi 12 février. On remercie la laiterie Fromagerie de Beaume ainsi que le Daystock Factory Outlet à Orbe.
Donc ce sont nos parrains. Nos parrainages.
Nos partenaires, c'est nos partenaires aussi.
Oui,
non
aussi, absolument.
Dire partenaire ou sponsor, le partenariat, les partenaires. Moi, j'aime bien dire partenaire.
C'est sympathique.
Tu es ma partenaire ce soir aussi.
Mais
comme
depuis
tout le reste de la semaine.
Début de la radio.
Et puis, oui. Je vais remercier Thibaut, sans H, avec un D à la fin pour la technique. Et puis, une petite touche pour remercier l'émission Les 4 Fantastiques, qui était avec le bus au stand. Très belle émission décentralisée. C'était très sympa, on les salue. Et puis, je te salue, toi, Sylvain. Comment
Mais
vas-tu ?
Bonsoir, Sylvain. Ça va très bien. Et toi ?
Parfait.
Voilà, donc nous avons le plaisir ce soir d'avoir une invitée qui habite à Loubersson. Qui vient de Genève, ça fait à peu près depuis 2014 qu'elle est à Loubersson, et sûrement que vous la connaissez déjà. Moi j'ai une petite idée, hein. Ne serait-ce que si vous avez déjà assisté à un concert qu'elle a organisé au Cinéma Royal, ou sinon déjà entendu parler de l'association Loberté à Loubersson. C'est donc Nathalie Recking que nous accueillons ce soir, qui est une professionnelle de la musique et violoniste. Et son parcours est jalonné d'aventures musicales et créatrices très variées. Voilà, elle a un amour et une passion pour les musiques traditionnelles. Et cet amour a vu le jour à son retour en train de Budapest. Parce que, je vais vous l'annoncer, mais peut-être que certains le savent déjà, Nathalie va partout où le train l'amène. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sylvain et bonsoir aux auditeurs et auditrices. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de découvrir cette émission avec vous, c'est chouette. Tu veux que je raconte mon histoire, c'est ça ?
Absolument. On n'aura jamais une heure entre les morceaux de musique. Et puis alors, ben voilà, je l'annonce déjà, mais je pense qu'on va se trouver un petit instant où Nathalie, tu vas pouvoir sortir ton superbe instrument qui est juste absolument magnifique et nous faire nous régaler d'un morceau en direct.
Avec plaisir, ouais.
Alors, volontiers Nathalie, ton parcours, d'où viens-tu, qu'as-tu fait comme formation professionnelle ? Volontiers.
Très bien.
Nous t'écoutons.
Alors moi j'ai grandi à Genève, je viens d'une famille franco-suisse, avec du côté de ma maman une famille fribourgeoise. Personne n'est musicien ou musicienne professionnelle dans ma famille. Mais les aléas de l'école ont fait que j'ai vu, quand j'étais à l'école primaire, le casse-noisette. Et ça m'a donné envie de faire du violon. Et donc je suis rentrée à la maison et j'ai annoncé à ma maman, je veux faire du violon. Voilà, qu'elle était un peu embêtée. Parce qu'elle avait cette appréhension, comme elle n'était pas musicienne, de ne pas pouvoir vraiment m'aider à travailler mon violon. Parce qu'elle avait bien conscience qu'il fallait travailler un instrument. Puis elle se disait, ça va être compliqué. Mais j'étais vraiment pas motivée à faire du piano. Je voulais absolument faire du violon.
Donc elle avait préféré que tu fasses du piano, c'est ça? Oui.
Bah, elle se disait que c'était peut-être plus facile au début.
T'avais quel âge, Nathalie, en fait?
Ouais, 5-6 ans, quelque chose comme
excellent.
Ça. Voilà, j'étais déjà assez décidée, quoi. Mm-hmm. Donc j'ai dû expliquer au directeur du conservatoire que je voulais commencer le violon et non pas le solfège, parce qu'à l'époque, on commençait par le solfège et après on faisait du violon. Et j'ai eu droit à une dérogation pour commencer violon et solfège en même temps. Bref. Voilà.
Okay.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé à la musique. Et puis j'ai fait partie de la maîtrise aussi. Enfin, j'ai pas mal chanté. Voilà, je suis quand même une descendante de fribourgeois. On chante.
Ouais, c'est un canton de musique et de folklore et de chant, effectivement.
Ouais. Ouais. Quand j'avais 16 ans, donc moi j'ai fait une formation classique, toute normale. Et quand j'avais 16 ans, j'étais adolescente à Genève. Je trouvais que Genève, c'était ennuyeux. Et j'ai voulu partir. J'ai trouvé une solution pour que mes parents financent quand même mon année à l'étranger. Mmh. Donc j'ai trouvé une association qui organisait des échanges à l'étranger. Et il y avait la possibilité, pour faire de la musique, d'aller soit en Lettonie et soit en Hongrie. J'avoue que géographiquement, je ne savais pas tout à fait où ça se trouvait. Voilà, ce n'était pas forcément mon fort, la géographie. Mais je trouvais que le mot laiton en soi sonnait mal. Donc j'ai dit que je ne voulais pas parler le laiton, parce que ça sonnait mal, juste le mot, et que le hongrois, ce serait OK. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Budapest. Et là, j'étais dans une famille d'accueil qui avait 7 enfants, de 2 à 19 ans. Et c'est tout le monde, absolument tout le monde, écoutait de la musique traditionnelle, hongroise du coup. Les grands sortaient en bal, où il y avait... Donc ils allaient faire la fête, il y avait un orchestre, enfin des violons, une contrebasse, des chanteurs, des chanteuses. Et les gens dansaient, faisaient la fête comme ça, c'était très très rassembleur, très joyeux, et très humain en fait. Mm-hmm. Et moi c'était la première fois que je voyais ça. Au tout début je trouvais ça incroyable, après quelques mois j'étais un peu lassée. Et puis de nouveau au bout de 6 mois j'étais plus hongroise que la plupart des Hongrois je pense. Et du coup, c'est là où arrive cette histoire de train. Il a fallu un jour rentrer à Genève, quand même. Et j'ai pris donc le train pour rentrer, 14h. Et j'avais ce sentiment effroyable de quitter un pays dont je connaissais toutes les racines, dont je connaissais l'histoire, que je connaissais la musique. J'avais fait la fête avec toutes ces traditions et tout ça, toute cette culture. Et d'arriver dans un pays complètement aseptisé. Parce que je connaissais rien, quoi. Enfin, voilà, j'avais vraiment le sentiment d'arriver dans quelque chose de très, très propre et très comme il faut, mais pas très fun. voilà. Et c'est là où je me suis dit, je vais chercher un peu Qu'est-ce qu'il y a chez nous, quoi.
Ouais. Absolument.
Et je suis tombée sur les groupes folkloriques. Et j'avoue que ça ne m'a pas passionnée à ce moment-là, du tout. Donc j'ai continué à chercher. Je suis tombée dans le bal folk. Le bal folk, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 avec la folk américaine. Et donc en France aussi, ils ont commencé à s'intéresser à des musiques populaires, mais des musiques populaires des campagnes. Et de remettre à jour. Et voilà. Et donc je fais de la musique là-dedans, mais c'était vraiment mon hobby. J'ai continué mes études classiques. J'ai fait la Haute École de Genève, j'étais au Conservatoire Royal de Liège aussi. J'ai fait un master en pédagogie musicale, donc tout ça c'était dans la musique classique. Et après, j'avais pas envie de faire de la musique classique. Et du coup, voilà, je me suis relancée dans les musiques traditionnelles. J'ai fait de la musicologie, j'ai fait un bachelor en musicologie, et puis j'ai commencé un bachelor en ethnomusicologie. Mais on voulait absolument me faire étudier des musiques de très loin, et moi ce qui m'intéressait c'était les musiques d'ici. Et du coup, j'ai laissé tomber pour finir, parce que c'est très très beau, les musiques orientales ou très très lointaines.
Bien sûr.
Mais c'était pas ça qui m'intéressait. Et comme j'avais déjà un master, j'ai arrêté ça et j'ai fait mon chemin toute seule.
Ok.
Voilà.
Et quand tu es rentrée de Budapest, tu t'étais imaginé retrouver quelque chose de similaire en Suisse? Et au vu de la découverte, c'est un peu une déception?
J'avoue que c'était une déception, parce que moi je recherchais vraiment ce truc où tu te retrouves autour d'un instrument, de quelque chose de simple en fait. On est là, on sort nos instruments, on joue et puis on est content d'être là, on chante. Souvent, y a des boissons, mais pas forcément. Mais ce truc un peu très convivial.
De partager un moment,
danser, de chanter, très spontané quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, ce que j'ai trouvé dans les milieux folkloriques, c'est quelque chose de mise en scène, de très codé en fait. Et c'était pas du tout ça que je recherchais, c'est vrai. Je savais pas ce que j'allais trouver, parce que comme j'ai grandi à Genève dans un milieu quand même très urbain, et puis je me disais mais peut-être qu'en fait chez nous aussi ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de Hongrois qui connaissent pas les musiques traditionnelles hongroises et qui vont pas en bal. Et je me suis dit peut-être que moi je fais partie de ces gens-là et qu'en fait chez nous aussi il y a un truc incroyable qui se passe dans les campagnes ou je sais pas quoi. Et voilà, et j'ai pas tout de suite trouvé. Mais j'ai fini par trouver.
Ah oui. Donc, tu as continué tes recherches,
ouais.
Bien sûr. Et ça t'a amené où?
Et bien maintenant, ça m'a amené à farfouiller dans des archives, à écouter des enregistrements où on entend en plus les grésillements de la technique que ce qui a vraiment été enregistré. Donc, ça fait comme ça et il y a des gens qui chantent dessus. Maintenant j'ai découvert en fait, je redécouvre les chansons populaires qui étaient chantées dans nos contrées, les musiques et les chansons, les danses. En fait, comment on passait nos temps quand on était en veillée. Il y a un super documentaire qui a été fait dans les années 70 par la RTS où ils sont allés à Haute-Nanda et là ils ont filmé des veillées des gens qui passent la soirée quoi, ensemble. Et il y a un moment, justement, dans ces veillées. Alors, il y a des moments où ils sont en train de jouer aux cartes, il y a des moments où ils se racontent des histoires. Et il y a un moment où il y a un monsieur qui sort un harmonica et puis des gens qui dansent. Et ça, c'était dans les années 70. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. Un petit peu, mais.
Non, c'était il n'y a pas très longtemps.
Non, finalement, non.
Hein, finalement, non. Nathalie, en fait, tes recherches, tu les poursuis, enfin tu les as commencées, tu les poursuis dans les, entre autres, dans les archives de musique populaire à Bâle,
oui.
Entre autres.
Parce que, alors, il y a plein de collectages qui ont été faits fin 19e, début 20e. Donc ces collectages, c'est-à-dire c'est souvent des universitaires qui se baladent dans les campagnes et puis qui vont toquer aux portes des gens et qui leur demandent qu'est-ce que vous chantez, c'est quoi vos chansons que vous aimez bien ou qu'est-ce que vous jouez ou le soir comment vous faites la fête, qu'est-ce que voilà, et puis qui notent. Alors ça qui note ou qui enregistre. Au début, ils notent parce qu'il n'y avait pas de moyens techniques d'enregistrer. Alors ça a le défaut de l'écriture, parce que la musique, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de... Enfin, c'est ça, ça existe que pendant le temps où on le fait, et après, ça n'est plus. Bon, maintenant, on enregistre, mais à l'époque, ça faisait que passer. Et donc, ils étaient là, ils étaient en soirée, il y a, je sais pas, Tati Jacqueline qui sort une chanson, et puis elle sort tous les couplets comme ça, alors il faut vite noter la mélodie, vite noter les couplets. C'était pas un travail facile. Du coup, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, c'est que souvent, en fait, ce qu'on a comme trace, c'est un squelette de mélodie. Mmh, mmh. C'est un peu la base. On n'a pas tous les ornementations, on n'a pas le tempérament, on n'a pas comment c'était articulé, quoi. Mmh. Et donc là, c'est là où ça donne une grande liberté aussi. C'est que c'est à nous de remettre la chair sur ces squelettes, quoi. Après, un peu plus tard, il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Il y a une Suisse allemande qui s'appelle Hanni Christen, qui a été dans toute la Suisse. Elle était assez obsessionnelle comme ça, avec une éthique qui est assez questionnable. Mais n'empêche que grâce à elle, on a vraiment beaucoup de matériaux. Parce que elle, son truc, c'était je sais que ce violoniste-là, il connaît quelque chose que je ne connais pas. Donc elle va toquer à sa porte. Elle toque. S'il est il est malade au fond du lit, elle n'a rien à faire. Il faut qu'il sorte son instrument. Et à ce moment-là, il faut qu'il enregistre. Et ces enregistrements nous donnent quand même beaucoup d'indices sur comment redonner corps à ces musiques, quoi.
Si tu permets, Nathalie, en discutant et en préparant aussi l'émission, en partageant avec toi, donc sans caricaturer, mais on est actuellement de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on peut entendre. C'est un peu un folklore qui est un peu, comment on dirait, carte postale ou touristique. Et on pense que c'est celui qui représente le mieux le pays et puis qu'on s'approprie maintenant. Et toi, tu fais des recherches sur la couche qui est en dessous, dans ce folklore qui est enfoui et qui est intéressant de faire ressortir parce que c'est pas vraiment le folklore que l'on voit elle-même qu'aujourd'hui.
Exactement.
Donc pour comprendre tes recherches, elles sont vraiment dans ce folklore un peu d'avant qui est enfoui.
Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, déjà, moi, je fais la différence entre les musiques folkloriques et les musiques traditionnelles. Parce que les musiques folkloriques, pour moi, ça a un cadre et ça a un code qui est très particulier, qui est propre au folklore. Après la Première Guerre mondiale, en Suisse, ben, on était un pays de plein de cantons qui avaient des contrats un peu pour cohabiter ensemble, mais on n'avait pas forcément de sentiments nationalistes.
Voilà. De cohésion, tu veux dire.
Ouais. Et puis, avec la montée des fascismes dans les années 30, il y a eu ce besoin un peu de créer une sensation de nationalité, enfin de Suisse, quoi, d'Helvète. Mm-hmm. Et il y a un courant politique et culturel qui s'est créé à ce moment-là, dans les années 30, qui s'appelle la défense spirituelle. Où c'était de mettre en avant les valeurs helvétiques, la diversité des cantons, le made in Switzerland, mais ils ne disaient pas en anglais à ce moment-là. Mais, mais enfin voilà, le fait local, quoi. Et pendant à ce moment-là, et déjà avant, il y avait eu de l'intérêt au 19e siècle. Dans toute l'Europe, il y a quand même une montée des nationalismes. Et puis on va chercher dans les traditions populaires, justement, nos racines, quoi. Il y a à Hongrie, il y a Bartok qui est très connu pour avoir fait ça. Enfin, mais dans toute l'Europe, en fait, il y a eu un intérêt. Et en Suisse arrivent ces années 30 où on cherche à se trouver une identité. Et du coup, il y a plein de... En fait, c'est parti des sociétés de costumes. Et ils ont commencé à porter le costume folklorique, enfin traditionnel, mais souvent ce costume, en fait, il n'était plus d'usage déjà dans le quotidien. Donc ils ont été chercher un peu dans des sources pour recréer. En fait, ils ont fait le travail que je fais maintenant sur les musiques, mais dans les années 30, avec le prisme des années 30, avec leur vision des années 30, et puis cette volonté de porter des valeurs. Et le folklore, en fait, c'est devenu, pour moi, et je pense qu'on est beaucoup à partager cette définition, mais je prends toujours des pincettes, mais le folklore, pour moi, c'est inspirer des musiques traditionnelles ou des traditions locales, mais ces traditions, on les met en scène avec une codification qui est quand même très, très claire, et on veut transmettre un message avec ces spectacles. Et voilà. Et alors que moi, ce que je recherchais, c'était juste la spontanéité du moment et puis le fait de partager entre êtres humains un moment convivial, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et pour moi, les musiques traditionnelles, ce serait ce partage festif ou poétique. Et le folklore, c'est ces représentations de quelque chose. Et maintenant, quand on va voir un spectacle de folklore, bah souvent, il représente une scène de berger ou un mariage. Voilà, on imagine un peu qu'est-ce que c'est le Suisse. La Suisse parfaite.
Ouais, la vie suisse, voilà, avec ses clichés, effectivement.
Ce que tu disais, la carte postale.
Oui, la carte postale, le côté un peu touristique de la Suisse, qu'on aime bien se réapproprier, parce que ça sécurise aussi cette image-là, on est d'accord.
Mais en même temps, on s'est construit là-dedans. Puis quand ça s'est arrivé, en fait, on avait besoin de construire quelque chose de collectif. Et voilà. C'est juste que ben, depuis 2026, c'est un peu plus dur qu'en 2030. Enfin, voilà. Et dans les, en, pardon, 1930. En 1930. Et en 1930, vraiment, y avait, c'était vraiment antifasciste et très politique. Après, dans les années 60, quand le courant politique s'est terminé, c'était parce qu'en fait, c'était devenu trop conservateur et pas assez à la page, en fait, pas assez actuel.
Il y avait une sorte de protectionnisme, de marquer les couleurs claires, notamment par les habits qu'on remettait au goût du jour.
Ouais, j'ai lu des textes qui disent que en fait, quand t'es un bon Suisse à l'armée, tu mets ton uniforme, puis dans la vie citadine, tu mets ton costume folklorique.
Ouais.
Et quand tu mets ton mais même maintenant, quand tu mets ton costume folklorique, t'as un code de conduite. Tu peux pas faire n'importe quoi. J'ai un ami qui est dans un groupe folklorique qui m'a fait lire un peu les règles qu'ils ont.
Le code de déontologie.
Un peu. Quand tu portes un costume folklorique, t'es pas censé fumer, t'es pas censé porter des lunettes de soleil. Et en fait, c'était assez drôle parce que il y avait genre on peut, s'il y a du soleil, on peut mettre des lunettes de soleil entre la salle où on se prépare et puis la scène. Mais dès qu'on monte sur scène, par contre, il ne faut pas d'éléments perturbateurs.
Oui, on dénature l'image réelle de ce qu'on peut vraiment transmettre et refléter. Ouais.
Donc c'est quand même très fort, en fait. Ce n'est pas anodin.
C'est une sacrée mise en scène.
Bah, c'est le but du folklore. C'est une image de la Suisse sur scène.
Mais finalement, on est assez fiers de ça, quelque part.
Bah, quand
on, parce que... Ce qu'on projette, moi je trouve que des fois c'est intéressant d'avoir des valeurs qui sont intéressantes. Toi. Oui.
Bah, y a des valeurs, enfin si, il ne faut pas tout jeter, ça c'est sûr, il y a des valeurs qui sont intéressantes.
Mais elles peuvent être peut-être transmises de manière différente et puis ça fait l'objet de recherches dont ce que tu fais, mais c'est vrai que c'est des valeurs qu'on t'a appropriées et qui donnent une image à la Suisse. Alors elles donnent l'image à la Suisse, ben, voilà, qui est comme elle est, on la prend comme on a envie de la prendre, mais à quelque part on est quand même assez fiers. Cour des Alpes. Trois qui jouent ou plus, et puis ça fait partie de ce côté, de ce son, et puis de ce côté alpestre. On voit les jeux aussi alpestres, hein, la pierre d'Ushpunen, le Hornus en Suisse alémanique et autres. Ben, on est dans une situation où on adore finalement aussi revivre ce genre d'image.
Ouais,
qui donne une sécurité à la Suisse et puis un côté assez stable.
Oui, moi, mon seul regret dans tout ça, c'est qu'on a. On s'est approprié beaucoup de trucs suisse-allemands au lieu de mettre en valeur des choses qu'on faisait ici.
Suisse-romand.
En fait. Voilà. C'est comme. Il y a un accordéon qui est beaucoup utilisé, par exemple, à Fribourg, qui s'appelle le Schwitzögli, qu'on appelle maintenant la schwitzoise par traduction, mais il s'appelle le Schwitzögli de base. C'est un instrument suisse-allemand. Ou le fait de faire du yodel en Suisse-romande, par exemple, c'était pas vraiment le cas ici. En fait, le yodel, ça vient de la Suisse centrale. Et puis ici, il pouvait y avoir des choses qui ressemblent à du yodel dans les appels de bergers ou de bouviers quand ils vont chercher leurs animaux. Puisqu'on faisait des chants un peu pentatoniques comme ça. Donc c'est plus un appel pour appeler le troupeau, comme le lioba, le fameux lioba qui émeut tout le monde à chaque fois qu'on l'entend. Et ben ça, c'était pour appeler les vaches. Voilà. Donc ça, ce serait la forme de yodel qu'on peut avoir. Mais le yodel, comme on peut le voir... qui est souvent en allemand, c'est parce que ça a été c'est une tradition suisse-allemande, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'est fait ici, chez nous.
Sûrement, ouais, bien sûr.
Et il s'en est fait des choses, visiblement.
Ah, il s'en est fait plein de choses.
Voilà.
Une sacrée quantité. Nathalie.
Oui.
On va passer ton premier choix musical. Et je te laisse en parler, hein, parce que c'est Lisa Blond dans le jus.
Oui, je suis musicienne, ce qui fait que souvent je finis très très tard les concerts, qu'il faut rentrer, et qu'il fait nuit et que je suis seule dans la voiture. Et Lisa Blanc, c'est une accompagnatrice incroyable pour moi, elle me donne la pêche. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire écouter, découvrir cette chanteuse québécoise.
Merci Nathalie.
Listen up what the hamsters did.
Trop busy.
Wheels turned up what the hamsters did.
Dans l'émission La Vita è Bella avec Nathalie Reking, violoniste professionnelle. On parle folklore, musique, spectacle également. On voulait te poser une question, Nathalie, en termes de recherche. On a parlé des archives de musique populaire à Bâle, mais est-ce que c'est compliqué de trouver les sources de ces musiques?
Quand j'ai commencé à chercher, c'était compliqué. Et après, on trouve un premier ouvrage qui a été publié, je ne sais pas, en 1917. Et dans cet ouvrage, il y a une bibliographie. Et puis là, il parle d'autres bouquins. Et en fait, j'ai cherché beaucoup comme ça. Et je suis arrivée, en fait, sur plein de choses. Justement, aux archives populaires, aux archives de musique populaire à Bâle, il y a des cartons entiers de cahiers pleins de mélodies qui attendent plus qu'à sortir et à être connues. Moi, quand j'y suis allée, j'étais très émue parce que j'avais un cahier qui était daté de 1817, où on voyait que ça devait être un monsieur qui avait bien calligraphié toutes les paroles des chansons qu'il aimait bien. Et puis tout à la fin, il restait 4, 5, 6 pages blanches. Et en fait, à la plume, il y a un enfant qui a dessiné ce qui lui passait par la tête, des animaux, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment une tranche de vie de quelqu'un qu'on tient dans les mains, et c'était ses chansons préférées à ce moment-là qu'il a voulu ne pas oublier, qu'il a noté comme ça. Donc voilà, il y a plein de cahiers qui se retrouvent soit dans les archives, mais aussi dans les greniers des gens.
Et de bouche à oreille, est-ce qu'il y a aussi des particuliers qui, en sachant et connaissant tes recherches, t'ont aussi contacté
? Je suis allée jouer en décembre à Val-d'Illier, et juste après moi, ou juste avant moi, je ne sais plus, il y avait un chœur qui s'appelle les mercenaires de Val-d'Illier qui étaient là, parce qu'ils chantent des chansons qui ont été ramenées par les mercenaires à Val-d'Illier. Et ils nous expliquaient qu'ils ont formé ce chœur parce que dans les années 80, il y avait un groupe de messieurs qui voulaient pratiquer les chansons qu'ils avaient entendues pendant leur veillée. Puis ils me disaient, souvent on connaissait le premier et le dernier couplet parce qu'on était encore réveillés au premier, on s'endormait pendant la chanson et se réveillait vers la fin. Et donc ils avaient ce besoin de faire vivre en fait ce qu'ils avaient appris, donc c'est vraiment du bouche à oreille. Et là maintenant, il y a encore des jeunes qui chantent avec eux, donc il n'y a plus beaucoup de gens qui étaient présents en 1980. Et là, donc ils ont... c'est encore du bouche à oreille totalement en fait. Ils ont les paroles qui sont notées, mais les mélodies sont pas notées, et puis ils chantent à 3-4 voix et c'est tout. C'est là, pour le coup, c'est de la tradition vivante, quoi.
Pur et dur.
Ouais.
Pur, magnifique.
Extra. Nathalie, Sylvain, je vous annonce qu'après la publicité, Nathalie va jouer en direct avec son splendide violon. Donc ne soyez pas étonnés. Ce sera une transition dans la douceur, mais tout d'abord les pubs. Merci Thibaut.
À tout à l'heure.
Francioli SA, votre solution locale en construction, rénovation et génie civil. Expertise et qualité depuis 154 ans. Pour vos projets de demain, contactez-nous au 024 454 23 25 ou par mail à info@francioli-sa.ch. Ensemble, bâtissons l'avenir.
Depuis 10 ans, H-Studio vous accompagne dans vos projets multimédia. Création de sites web, réalisation de chartes graphiques, production vidéo, sonorisation et éclairage pour vos événements. Professionnels ou particuliers, nous mettons notre expertise à votre service pour des solutions adaptées à vos besoins. Et dès maintenant, rendez-vous sur hstudio.ch pour en savoir plus.
Depuis 2006, Mabasi et son équipe est à même d'imprimer vos visuels des plus simples aux plus complexes sur tous les types de supports et de toutes les couleurs.
N'hésitez pas à contacter Mabasi au 024 436 12 34 ou d'aller les visiter à Champagne pour étudier avec eux les meilleures options de production de vos projets.
Samedi 14 février, c'est le jour des enfants au carnaval de Sainte-Croix. Dès 10h, petits et grands sont invités à venir découvrir le parcours Monstres et compagnie. À 13h30, place au maquillage. Et pendant que vous patientez pour être grimé, le Zarty Cirque enchantera le public avec son show spectaculaire. Après en avoir eu plein les yeux, le bal des enfants prendra le relais et transformera la salle en véritable dance floor. Et un goûter sera offert aux enfants par les boulangers de Sainte-Croix et environ.
Alors, je vous fais une montferrine du Chablais vaudois.
Merci beaucoup Nathalie pour ce morceau.
Merci infiniment.
Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on était sous le charme de ce côté musical et puis on sentait bien un morceau bien de chez nous, comme on dit. Et puis on avait envie de bouger sous le soleil du Chablais vaudois et on sentait presque le vin couler dans les verres.
Oui, j'en ai encore la chair de poule.
Ouais, c'est toujours très sympa quand on peut jouer un morceau au studio, c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Waouh! Bon, on revient dans notre studio. On est parti loin là. Hein. Moi, je sais pas, je me voyais dans les Alpes, entre les trois pays, entre l'Italie, la France et la Suisse.
Toi, en géographie, t'es pas si bien que ça finalement. Le Chablais, c'est pas aussi loin.
Non, mais moi, ça m'a amené beaucoup plus loin. Je me suis dit, il y a partout qui devait jouer ça ou voilà, il doit y avoir des consonances. Voilà, Nathalie. Il y a aussi une chose dont on peut parler, c'est l'association Lauberté.
Oui.
C'est l'association que vous avez mise sur pied il y a quelques années déjà.
Mm-hmm. Ça fait un petit moment, ouais.
Ça fait un petit moment que c'est en route.
Je crois 2018, 2019, je ne sais plus.
Alors on dira pour la petite histoire, c'est comme si c'est plutôt le train que l'association a pris pour arriver. Il y a eu quelques arrêts, quelques stops, quelques gares où il y a eu un petit arrêt et où ça a pris un peu de temps, on dira.
Voilà, mais on se remet en route gentiment et puis on n'a jamais vraiment complètement arrêté parce qu'on a toujours organisé les concerts au cinéma,
oui.
Grâce au Cinéma Royal, incroyable. On remercie infiniment Adeline. Pour la confiance qu'elle nous donne et l'opportunité de pouvoir partager tous ces justement, enfin comme je suis musicienne et puis mon compagnon Baptiste est ingé son, on a quand même beaucoup de musiciens et de musiciennes autour de nous et je trouvais dommage de pas pouvoir faire partager toutes ces connaissances et ces moments avec les gens d'ici quoi. Et c'est pour ça qu'on a commencé à organiser des concerts.
Plus ou moins une fois par mois, je dirais. Hein.
Ouais, au début, on faisait vraiment une fois par mois. Mm-hmm. Là, cette année, pour moi, ça a été plus compliqué parce que j'ai quand même beaucoup de dates à l'étranger cette année. Et donc, je ne pouvais pas être là. Donc, on a fait un peu moins. On s'est mis d'accord. On a choisi quelques dates avec Adeline et Sarah qui nous fait la lumière. Mm-hmm. Mais là, pour le semestre qui vient, c'est une fois par mois de nouveau.
De nouveau, hein, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et puis en fait, l'association, elle est partie de quelle envie, de quel désir ?
Ben, je me suis retrouvée dans la maison à l'Auberçon un peu par hasard après mes études. C'est mes parents qui ont acheté cette maison et puis elle était vide à ce moment-là, donc j'habitais là. Pendant, à la base, c'était censé être que temporaire, mais j'y suis toujours. Mais, et puis, comme c'est une maison avec beaucoup de place et beaucoup de lumière, et que je connaissais, sortant du conservatoire, je connaissais énormément de musiciens qui cherchaient des endroits pour répéter. Parce qu'en Suisse, c'est quand même difficile d'avoir des locaux et des lieux adaptés de manière pas trop chère. Souvent, c'est soit très très cher, soit vous faire des dossiers en... avec 40 000 pages pour expliquer le projet qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais il faut quand même l'expliquer. Mmh. Et donc j'avais beaucoup d'amis qui cherchaient des lieux et donc ils sont venus à la maison pour répéter, pour créer, pour écrire, pour réfléchir. Enfin, voilà. Et après, c'est des amis d'amis qui sont venus et puis on s'est dit que ça commençait à être... qu'il fallait faire quelque chose pour mettre un cadre, en fait, pour que ce soit bien légal. Et donc on a créé une association et c'était que les membres de l'association qui pouvaient venir. Mmh. J'ai consulté des avocats pour savoir un peu comment ça se faisait. Et puis en fait, ils m'expliquaient qu'il n'y a pas de case pour résidence pour artistes encore, dans toute la, tout ce qui est dans la loi et toutes les normes et tout ça. Donc on a fait au mieux. Et puis apparemment, ce n'était pas encore assez bien. Mais maintenant, on a fait les travaux qu'il fallait faire. Et puis je crois qu'il reste encore quelques pancartes à afficher. Et on n'est pas trop mal. Donc on devrait pouvoir ouvrir... D'ici cet été.
Donc tu as eu aussi je crois tu as eu une groupe de des danseurs qui sont venus une fois aussi.
Ouais.
Hein.
Alors comme bah voilà, ce que je disais, c'est que nous on est dans le milieu de la musique, donc on a beaucoup de musiciens et de musiciennes, mais on a aussi des écrivains et on a eu des scénaristes qui sont venus. On a eu des danseurs et des danseuses, on a la chance d'avoir la comédie musicale improvisée qui vient assez régulièrement. Voilà. C'est chouette parce qu'on voit passer beaucoup d'artistes locaux et on commence à bien connaître le tissu culturel vaudois grâce à ça, et ça c'est chouette. Et l'idée en fait des concerts, c'était pouvoir faire un lien entre ces artistes qui passent chez nous et mm-hmm. puis les Saintes-Cries, quoi.
Donc en fait ça veut dire que t'as rarement la difficulté à trouver un groupe ou des artistes pour les faire venir se produire au Cinéma Royal, en fait.
J'ai trop de
t'as trop d'offres. De demandes.
Ouais. En fait les gens cherchent des lieux où jouer toujours. Mm-hmm. Et puis le cinéma, c'est quand même un sacré cadre, quoi. Enfin, mm-hmm. Il est très très beau, la salle est belle, l'acoustique est pas si mal, les fauteuils sont très très, enfin même plutôt bien l'acoustique en vrai. Hein. et puis c'est un peu sec, mais c'est normal pour un cinéma. Mais et puis les fauteuils sont extrêmement confortables, ce qui parfois donne lieu à des concerts où sur scène les gens sont à fond et puis dans la salle les gens sont très cosy et très.
Oui,
posés,
alors ça c'est vrai. Pour l'avoir vécu, il y a les pieds qui on entend les pieds taper, les gens se boussent, enfin se trémoussent sur leur siège. Mais effectivement, on est très bien assis. Ouais. En tout cas, moi, j'ai toujours passé d'excellents moments avec des magnifiques découvertes.
Ouais. Le prochain, c'est le 27 février, avec un trio qui vient faire de la musique celtique qui déménage, m'a-t-on dit. Je ne les ai pas encore vus. Enfin, je connais le violoniste, mais je ne les ai pas encore entendus. J'ai hâte de
leur nom, déjà
ça. Oula.
Ouais, on va le... Mais moi, je me souviens, par contre, de, aussi d'un groupe de musique alors qui disait que c'était... Alors, c'était très drôle. Parce qu'en fait, à la base, c'était de la musique irlandaise.
Oui.
Et en fait, c'était beaucoup de l'écossais.
C'est ça.
Et vraiment, j'ai adoré. Je ne me souviens pas le nom du groupe, malheureusement.
C'est les Brownies.
Les Brownies. Et ouais. Ils étaient mais juste délicieux. Ouais. Parce qu'ils expliquaient d'où venaient les chansons. Vraiment, ils disaient... Oui, alors, oui, effectivement. Alors, c'est de nouveau une musique écossaise. Mais ça déménageait, c'était génial.
Ouais, ouais.
C'était vraiment chouette.
Ouais,
c'est vraiment des bons moments.
Je me réjouis du prochain pour découvrir ces répertoires-là aussi. Après, on aura Nikita Pfister en mars qui vient et qui va nous faire un concert avec du hagbrett.
Ah, voilà.
Ouais, qui est un instrument aussi traditionnel. En avril, il n'y a pas de concert au cinéma parce qu'on organise un festival à l'Auberçon.
Oui.
Trois jours, du 17 au 19 avril, sur les répertoires franco-provençaux, arpitan, donc justement France, Italie, Suisse romande.
C'est pour ça que j'étais avant avec eux.
Et puis en mai, on a un duo qui s'appelle Ton sur Ton, c'est un duo voix et contrebasse qui viennent au cinéma. Ça aussi, je me réjouis, c'est deux d'excellents musiciens qui sont en train de gagner tous les concours possibles et imaginables. Voix contrebasse, ça promet.
Tu as dit avant ton sur ton ?
Ça s'appelle ton sur ton, ouais.
Ok.
D'accord. Voilà, je sais pas pourquoi, on leur demandera.
Ouais, il faudra qu'on leur demande, effectivement, ouais, on pourrait. Enfin, il faudra que je m'en souvienne surtout.
Moi, je reviens juste, si je peux permettre, sur le lieu de création. On dit qu'il y a des lieux qui sont propices, hein, à l'environnement, à la création, à l'inspiration. Et quand toi, tu parles de moyens de transport qui est visiblement beaucoup avec le train, est-ce que c'est aussi pour toi un moyen de te déconnecter, de profiter du temps, de s'abandonner ? Et puis notamment à la composition, parce qu'on parle des pièces que tu joues, mais est-ce que tu composes aussi ?
Oui, je compose beaucoup. J'arrange aussi beaucoup pour mes projets. Enfin, j'ai 5 projets qui tournent là. Donc je compose énormément et puis j'arrange pour les formations différentes. Je pense qu'on habite une région qui est quand même très propice à la création. Il y a une certaine... moi, je dis toujours, il y a la sagesse de la vieille montagne. Parce qu'il y a ce truc très doux et très... très rond et calme, enfin, il y a une certaine sérénité. Et c'est vrai que tous les artistes qui viennent chez nous, ils ont toujours dit que c'était très inspirant comme lieu. Et le train, moi j'aime bien prendre le train parce qu'on se rend compte qu'on va quelque part. On monte dans un avion, puis on redescend, puis on arrive. Voilà.
On a le temps d'y arriver avec le train, on a le temps de s'adapter à quelque part.
Ouais, et puis de voir passer...
le paysage.
Ouais. Moi, mon rêve, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire un jour. C'est parce que je travaillais pendant longtemps, je continuais à travailler à Genève, alors que j'habitais déjà ici. Et je prenais la voiture pour aller à Genève, pour les horaires, c'était pas... Voilà. Mais je me suis dit, un jour, j'aimerais bien faire le chemin à pied. Donc partir de la maison et aller jusqu'au travail à pied pour bien me rendre compte du chemin. Enfin, c'est, je ne sais plus combien de 100 et quelques kilomètres, 180 je crois, ou un truc comme ça.
Oui, ça fait un bon bout, effectivement.
Je me disais, c'est ouais.
Et tu me disais aussi qu'habiter la campagne et au berceau, entre les villes où il y a des concerts, les voyages, de revenir en campagne, ça te permettait notamment de pouvoir te ressourcer, d'aller promener, de profiter du calme, de la verdure. Ça, c'était vraiment important pour ton équilibre aussi.
Bah, en fait, c'est maintenant que je me rends compte. Enfin, quand j'avais 19-20 ans, si un jour on m'avait dit que j'allais...
vivre l'Ouest.
Ouais, pour moi, c'était impossible. J'étais tellement une citadine. Enfin, j'habitais à Genève, j'avais habité à Genève, à Budapest et... Et après, donc des villes où il se passe tout le temps des trucs, quoi.
Quelque chose, bien sûr.
Mais en fait, ce qui est agréable, c'est que quand on tourne beaucoup, j'ai des horaires très variés et des trucs très intenses. Je vis des choses très intenses. Je vois beaucoup de monde. Enfin, quand j'ai joué, là, j'ai joué en janvier vers Montpellier. Il y avait 600 personnes dans la salle qui dansent, qui font du bruit et tout ça. Et c'est vrai que de pouvoir rentrer et de se ressourcer... dans un espace vide. Moi, souvent, quand je me promène autour de l'Auberçon et que je vois 10 personnes alentour, j'ai qu'il y a trop de gens déjà. Mais ça fait toujours rire ma maman d'ailleurs. Ça.
Nathalie, le temps file, donc passons peut-être à ton deuxième choix musical.
Oui.
Kedabou Fantastique et Nadia Hess. Alors je te laisse annoncer le titre et puis pourquoi ce titre ?
Je me souviens plus ce que je voulais dire.
Parce que c'est Denevas Get Get. Je sais pas si je le dis juste, c'est ça.
Denevos.
Denevos, get got. C'est ça, les titres.
Ah oui, oui, pardon. J'ai choisi ce morceau. Là, je suis en train de faire un CAS, un Certificate Advanced Studies à la Haute École de Lucerne, en musique, en violon traditionnel, du coup, suisse centrale. Et la doyenne de la musique traditionnelle a co-composé ce morceau-là. Voilà, c'est c'est du yodel actuel.
Thank you. cannabis as vinegar gurke os apnik toni dasten vinegar gurke os gurke drum geht veni für das asten besser geht was vinegar gurke und drum geht so deine ni besser os gurke
yo
Nous sommes dans le dernier morceau, si on peut dire, de l'émission La Vita è Bella jusqu'à 20h avec Nathalie Reking, violoniste professionnelle. On n'arrivera jamais, mais non, violoniste professionnelle, désolé. On parle folklore, musique, spectacle. Et on voulait te poser la question, en termes, quand on parle de culture et de musique notamment, en termes de soutien de la culture en Suisse, compliqué ou bien plutôt... flatteur et arrangeur ces dernières années alors que c'était compliqué au départ.
Ça reste pas évident d'être artiste aujourd'hui en Suisse parce qu'on n'a pas de statut en fait. On est censé avoir un vrai travail et à côté être artiste, ce qui en soi est pas possible. Enfin, quand on est artiste, ça nous prend déjà souvent plus d'heures que quelqu'un qui travaille. Normalement, j'ai envie de dire, parce qu'on fait des concerts très très tard, mais on a des répétitions toute la journée. Mmh. Enfin voilà.
C'est plutôt considéré comme une sorte d'occupation accessoire.
Oui, totalement.
Ok.
Et puis, ce qui est compliqué, c'est que les cachets des artistes n'ont pas évolué depuis les années 70. Donc le niveau de vie, lui, par contre, a bien évolué depuis les années 70. Donc là, maintenant, en général, quand on va jouer, souvent, c'est entre 200 et 400 francs. Et les gens trouvent ça totalement normal pour une journée de travail. Sauf que ben, c'est pas ce qui nous permet de vivre vraiment, quoi. Et donc là, c'est ça qui est un peu difficile. Après, y a quand même des soutiens... quand on a un projet et qu'on fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait un dossier de demande de subvention et puis on envoie à plein de fondations, à plein d'entités, d'institutions. Et puis là, on reçoit quand même de l'aide. Là, par exemple, pour le festival qu'on organise, on a été très soutenus. Et pour ça, on est très, très heureux et très chanceux de sentir un soutien, un intérêt pour ce qu'on propose. Après, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, quand tu vis tous les jours, il y a la Fédération Genevoise des musiques actuelles, de création, je crois que c'est ça, FGMC, qui a calculé que si tu joues deux fois par semaine, ce qui déjà est énorme en Suisse romande, parce que c'est quand même un tout petit bassin, quoi, pour pouvoir avoir 3600 francs à la fin du mois en ayant payé tes charges sociales et tout ça, il faudrait que tu sois payé 860 francs le concert. Ce qui est trois fois plus que ce qu'on touche actuellement. Et en plus, souvent, on est payé, on nous donne soit de l'argent comme ça en cash. Ça m'est arrivé, là, cet été, j'ai joué à un endroit et on m'a donné mon cachet en cash. Puis c'est à moi de le rendre légal, en fait. C'est à moi de faire les déclarations. Donc c'est à moi, soit on a un statut d'indépendant, mais le statut d'indépendant, on ne peut pas l'utiliser si on est plus de deux sur scène.
parce qu'il y a une jurisprudence qui dit qu'il ne faut pas. Mm-hmm. C'est quand même assez compliqué. On se retrouve à être très à tout faire. Quoi.
Ça veut dire que traduit autrement, on pourrait presque penser qu'on minimise le travail, l'investissement des artistes de manière générale.
Ah bah totalement. C'est souvent clair. On imagine qu'on vit d'amour et d'eau fraîche et qu'on fait un peu de violon. Mais moi concrètement, mes journées, j'ai la moitié de ma journée, c'est de l'administratif, c'est de la comptabilité, c'est du booking, des contrats.
Ouais, absolument. On revient un petit
vivement
peu.
Vivement un statut d'artiste en Suisse.
Je pense qu'il y a un premier jet qui va venir avec toi, Nathalie. Je pense que tu vas faire avancer les choses, toi.
Ouais, j'espère.
Je suis persuadée.
Un beau projet.
Alors, Nathalie, du 17 au 19 avril.
Oui.
Donc, c'est là où aura lieu le festival sur les musiques Arpiton.
Oui, les musiques du bassin de Suisse romande, Val d'Aoste, France voisine, c'est là où on parlait les patois franco-provençales. Franco-provençaux du coup, ou arpitan, parce que voilà, c'est les musiques, enfin les langues des montagnes. Et donc on organise un festival là autour avec des propositions très actuelles. Et la journée, il y aura des ateliers pour apprendre à danser et à faire la musique. Le soir, il y a des bals populaires, il y aura aussi des conférences et puis deux spectacles, enfin un bal pour enfants et un spectacle tout public le dimanche.
Alors, ce sera la salle de gym de l'Auberçon, n'est-ce pas ?
Oui.
Et aux anciens locaux du musée Beau aussi.
Exactement.
Alors, je crois qu'en gros, on a plus ou moins fait un survol. Par contre, les ateliers de musique et de danse et les conférences auront lieu autant le vendredi que le samedi et le dimanche.
Pas le vendredi, mais samedi-dimanche, oui.
Samedi-dimanche. Oui. Le vendredi, il y aura la trilogie Baptiste, la vieille Catherine. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi.
En fait, on propose la vieille Catherine, donc c'est une association qui travaille sur les musiques romandes.
Collectage.
Mmh. Voilà. Et donc, le vendredi soir, on commence par une trilogie de solo, c'est-à-dire qu'on monte chacun notre tour sur scène et on propose quelques morceaux et on va finir tous ensemble. Après, il y a Divani, qui est un de mes projets, qui sera en trio, là, donc deux violons, percussions. Pour faire danser.
Donc ça, ce sera le vendredi toujours. Ok.
Il y a aussi une initiation pour les gens qui ont jamais dansé. Donc c'est ouvert à tout le monde vraiment. Venez, ça va être accessible. Voilà. Et le samedi, du coup, atelier. Le soir, on commence la soirée avec un duo qui s'appelle Serac qui vient entre Grenoble et Clermont-Ferrand. Mm-hmm. Il y a ensuite un duo qui s'appelle Giga, où je joue dedans aussi. Et c'est un duo basco-roman, parce que mon partenaire de jeu vient du Pays Basque, en Espagne. Et ensuite, il y a un groupe valdotin, Pitularita. Et le dimanche, il y a un spectacle pour les enfants, fait par un trio savoyard. Ensuite, il y a un spectacle sur les violoneux savoyards, donc les joueurs de violon traditionnels en Savoie. Et puis, un groupe qui vient des Alpes du Sud, qui s'appelle le Duo Vargos, qui est spécialisé dans le rigodon.
Le rigodon.
Ouais.
Qu'est-ce que le rigodon ?
C'est une danse qui est hyper cool et très, très drôle à faire. Et puis, après, il y a un groupe qui habite à Bâle, qui vient jouer, qui s'appelle Brunel Miro, qui a déjà venu jouer au cinéma Royal l'année dernière, il me semble.
Un sacré week-end. Et un boulot, une mise en place, une recherche.
Ouais, c'est passionnant.
C'est passionnant.
Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que ça vaut la peine, surtout si les gens viennent.
Oui, alors les gens vont venir. Alors on leur répète, du 17 au 19 avril, c'est tout bientôt. Oui, ça va être une prochaine manifestation assez importante.
Et puis on invite tous les amoureux de la musique, du folklore, de la danse et du partage.
Et les curieux.
Du partage et les curieux de venir découvrir. Et puis on peut les inviter effectivement à se joindre.
Il y a un site qui s'appelle La Fête de la Vieille Catherine. Tout en un mot, .ch. Et il y a toutes les informations dessus.
Moi, ça me plaît énormément, la vieille Catherine. J'ai des images qui me passent, je pense à des personnes. Je trouve sympa, quoi. J'aime beaucoup ce...
L'histoire de la vieille Catherine, c'était un violoniste qui Albert Gos, fin 19e, début 20e, qui était peintre aussi et qui peignait chaque année le Cervin. Et il partait depuis Vevey à pied pour aller jusqu'à son point de vue pour peindre le Cervin. C'est lui, entre autres, qui a peint la grande fresque dans la gare de Lausanne. Mm-hmm. À l'époque, il était plus connu que Ferdinand Hodler. Il vendait plus cher ses toiles. Pendant ses pérégrinations pour aller à son point de vue, il prenait son violon et il s'arrêtait, il jouait avec des gens, il faisait danser. Et un jour, il arrive à Salvan. Et là, il joue un morceau avec un violoniste. Et les gens se souviennent de la première partie de la danse, mais ne se souviennent pas de la deuxième partie. Puis ils réfléchissent qui peut leur rappeler comment ça se dansait, machin, tout ça. Puis là, il dit « Ah, mais la vieille Catherine, là-bas !» Elle se rappelle. Et alors la vieille Catherine est venue, elle leur a montré la fin de la danse. Et du coup, en hommage à cette dame qui a fait que cette danse ne soit pas morte, mm-hmm. Et ben, on a appelé ça la vieille Catherine.
Improbable.
Donc, voilà.
Oui, improbable, mais quand même. Nathalie, toi, tu as plusieurs formations, en fait. Hein. Tu participes à plusieurs oui. duos, trios.
Tout à fait.
Il y a Carac.
Oui, qui est un trio. Violon, violoncelle, saxophone, puis on chante. Ouais, qui est de Belfolk, ouais.
Giga, t'en as parlé déjà.
Oui. Hein? Deux violons.
Et puis t'as aussi un projet avec La Fille Dragon.
Oui, on a joué le mois dernier au cinéma. Donc là, on se base que sur les collectages. Dans les autres groupes, on compose beaucoup. Mais là, on se base vraiment sur les collectages, mais on en offre une version un peu musique actuelle, puisqu'on a une batterie, un Moog, donc un synthétiseur basse, mm-hmm. Une guitare jazz, on chante. Voilà.
Et puis Divani.
Divani, ouais.
Qui est ce que tu parlais avant,
ouais.
qui est un trio maintenant avec la percu.
J'ai aussi un solo.
Ouais.
Je joue aussi en solo, je me produis aussi en solo, violon, voix, pied. Voilà.
Ce que tu viens de nous faire tout à l'heure.
Ouais, en fait, voilà. Un petit aperçu.
Un petit aperçu qui était tellement agréable. Et puis, voilà, on arrive au terme de notre émission. Ça va vite, 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 vite. Sylvain, je te laisse annoncer nos parrains.
Mais avec plaisir. Et puis, merci beaucoup, Nathalie, pour ce partage avec toi.
Vous.
Et puis, ce morceau joué en direct. C'était vraiment très sympa. Et merci beaucoup. Et puis, surtout, plein succès à ces prochaines soirée musicale, de danse, en tout cas vraiment plein succès. Et puis ben, on se quitte, La Vita est Bella est terminée pour cette avant-dernière. On remercie nos parrains, le parrainage, la tri fromagerie de Baume, Destock Factory Outlet à Orbe. Merci Thibaut pour la technique et puis on laisse l'émission maintenant à Fanchon et Stan, très bonne émission à eux.
Et puis Nathalie, oui, à demain. Et puis Nathalie, juste ton dernier choix musical, tu peux juste le...
Oui, c'est Vagalumes, oui. C'est un groupe qui est venu au concert au cinéma justement l'année dernière. Et la chanteuse, je l'aime beaucoup et je joue avec elle aussi dans La Fille Dragon.
Voilà. Raison pour laquelle on l'écoute. Merci beaucoup. Merci Nathalie.
Merci à vous.